Ce balado a été produit par la Revue hybride de l'éducation, une revue scientifique gérée par le département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'enregistrement peut être utilisé sans frais à des fins personnelles, scientifiques et éducatives. Les droits d'auteur appartiennent aux auteurs et à la Revue hybride de l'éducation. Pour rendre l'écoute plus conviviale, des éléments comme les figures, les tableaux, les contenus entre parenthèses, les notes de bas de page et les références bibliographiques ont été supprimées de l'article original. L'article original peut être consulté à partir du site web de la Revue hybride de l'éducation. Cet article s'intitule « Pratique à visée universelle dans le postsecondaire francophone. Enjeux, état des lieux et questionnements ». Il fait partie du volume 9 numéro 4 paru en 2025. Les autrices sont Josiane Robert de l'Université de Montréal et Julia Midley de l'Université de Caen, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Suivant la tendance mondiale en matière d'éducation inclusive, UNESCO, 1994, les établissements postsecondaires francophones ont emboîté le pas à leurs homologues de l'éducation générale des jeunes, primaire et secondaire, en adoptant une politique inclusive. Cependant, au-delà des valeurs et des enjeux sociaux et institutionnels, la mise en œuvre de cette dernière révèle plusieurs préoccupations et défis, notamment la prise en compte au quotidien de la diversité des apprenantes et des apprenants dans l'enseignement et la mise en œuvre des services. Outre la présence de plus en plus nombreuses d'étudiantes et d'étudiants en situation de handicap (AESH), la communauté étudiante s'est enrichie par la venue de personnes issues de l'immigration récente ou de l'international. Racisés, de la communauté LGBTQ2+ ou ayant un rapport non traditionnel aux études, temps partiel, interruption des études ou retour à celle-ci ou doté du statut de parent ou de travailleuse, gouvernement du Québec, 2021. Cette hétérogénéisation de la population étudiante incite les établissements postsecondaires à délaisser l'image d'une université élitiste, Romainville, 2006, ainsi que leur représentation de l'étudiant type ou du parcours normalisé pour une vision plus inclusive, Conseil supérieur de l'éducation, 2022, Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, 2023. Au Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur, 2021, dans son plan stratégique pour la réussite 2021 à 2026, relève que la diversification de la population étudiante exige une adaptation des modalités d'enseignement et des services à offrir, de même que davantage de flexibilité dans les parcours de formation. En France, le Comité interministériel du handicap affiche son ambition de rendre les universités et les enseignements plus accessibles en direction particulièrement des ESH. Des subventions sont versées aux établissements afin d'assurer l'accessibilité des formations et d'améliorer les conditions de vie étudiante. Des formations pour le personnel enseignant se mettent également en place pour que celui-ci propose des enseignements plus inclusifs, Comité interministériel du handicap, 2023. À la suite de l'adoption de politiques inclusives et de la mise en œuvre d'incitatifs ministériels aux postes secondaires en France et au Québec, où en est la communauté scientifique et universitaire dans la mise en œuvre de pratiques inclusives? Si la littérature grise s'est développée au fil des années, les études empiriques francophones sur la question des pratiques inclusives tardent au postsecondaire, Kérien et Kenyon, 2023, Suau et Lambert, 2022. Comme le précise Rousseau, en 2020, de nombreux défis persistent quant à la mise en œuvre d'une éducation inclusive, depuis la compréhension du concept jusqu'au manque de connaissances quant à sa mise en œuvre en salle de classe, en passant par les assises et la transformation de la posture à adopter. Ce numéro thématique vise à répondre à ce besoin émis par la communauté scientifique et universitaire francophone, notamment celle réunie autour de la question lors du dernier congrès de l'ACFAS 2024. Un qui présente principalement un trouble de santé mentale, un trouble déficitaire de l'attention, un trouble du spectre de l'autisme, Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap, 2023. Dans un premier temps, l'intention de ce collectif sera de donner quelques repères quant aux termes inclusion, école, éducation inclusive, pratiques inclusives ou pratiques à visée universelle dans le postsecondaire. Dans un second temps, il s'agira de faire état des récentes études s'intéressant aux pratiques à visée universelle dans le postsecondaire francophone en vue de documenter les pistes de recherche et d'action pour guider les établissements d'enseignement supérieur et les intervenantes et intervenants à une approche plus inclusive. Inclusion, école ou éducation inclusive et pratiques inclusives. Comment les définir? Les termes inclusion et école et éducation inclusive sont utilisés dans les médias, les milieux associatifs, scolaires, éducatifs, scientifiques, mais aussi social, culturel ou encore sportif. Généralement, ils sont associés à une évolution des valeurs et des pratiques, plus avant à un changement de paradigme après celui d'intégration. Par ailleurs, ces termes peuvent être utilisés comme des noms ou encore comme des adjectifs. Bon nombre de déclinaisons apparaissent selon les champs d'application, champs éducatifs, médico-social, les lieux, écoles, secondaires, post-secondaires ou encore les pays. Ces termes soulèvent donc encore des questions quant à leur définition, leur champ d'application, leur public ciblé de même que leur utilisation selon les contextes. En 2006, l'UNESCO, à travers la définition des principes directeurs pour l'inclusion, assurer l'accès à l'éducation pour tous, précisait que l'inclusion devait être considérée comme un processus. En d'autres termes, l'inclusion doit être envisagée comme la recherche perpétuelle de meilleurs moyens de répondre à la diversité. Elle consiste à apprendre comment vivre avec la différence et comment en tirer des leçons. On en vient ainsi à regarder les différences d'une manière plus positive, comme une incitation à favoriser l'apprentissage, chez les enfants comme chez les adultes. P15 à 16. Il est par ailleurs précisé que des changements doivent s'opérer aussi bien dans le système éducatif que dans les établissements. En France, l'expression « école inclusive » se veut la concrétisation du droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap. Elle « vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leurs besoins partagés pour apprendre. Et des besoins spécifiques de certains d'entre eux, site Internet, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche MENESR. Près d'une décennie plus tard, l'Organisation des Nations Unies, ONU, lors du Forum international sur l'inclusion et l'équité dans l'éducation, 2019, insistait sur le rôle fondamental joué par les différents lieux d'éducation, établissements, écoles et autres lieux d'apprentissage, pour valoriser chaque individu en tant que membre à part entière de la société. Ainsi, comme l'indique Gardou dans un entretien avec Garel, 2015. Le concept de société inclusive est utilisé en opposition à la société exclusive, qui maintient des exclusivités. Il fait l'objet de multiples déclinaisons. On parle d'éducation, d'école et de lieux professionnels inclusifs. On souhaite des pratiques culturelles, artistiques, sportives ou touristiques. Inclusive, on désire des politiques, des législations, des structures et des dispositifs inclusifs. On aspire à un environnement et à un développement inclusif et, plus globalement, à une culture inclusive. P1. Globalement, cette « dynamique inclusive » implique de la part du personnel de s'adapter aux caractéristiques et aux besoins des apprenantes et des apprenants pour leur permettre de s'inscrire dans les programmes, des évaluations et des pratiques pédagogiques communes. Parce que cela suppose d'identifier et d'éliminer les obstacles aux apprentissages, c'est le terme d'accessibilité qui est mobilisé pour qualifier les mesures pensées et mises en œuvre. Dès 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées précisait le terme « O ». Entend par conception universelle la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. La conception universelle n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Article 2. Par conséquent, deux types de pratiques coexistent et se complètent. D'une part se trouvent les pratiques de soutien, ou pratiques inclusives, en direction des apprenantes et des apprenants éprouvant des difficultés d'apprentissage, en référence à l'accessible design, visée selon laquelle il s'agit de rendre accessibles les situations d'apprentissage à quelques individus. D'autre part, il y a les pratiques préventives, ou pratiques à visée universelle, s'adressant potentiellement à l'ensemble des apprenantes et des apprenants, en référence à l'universal design. Si les définitions des pratiques sont ainsi posées, que dire de leur mise en œuvre? Comment améliorer l'apprentissage en anticipant les obstacles potentiels plutôt qu'en multipliant les adaptations pédagogiques spécifiques et les remédiations personnalisées souvent coûteuses en temps et en énergie? Comme le précise Seb, 2025, s'appuyant sur les propos de Tricot, 2024, rendre les apprentissages accessibles à toutes et à tous nécessite d'optimiser les exigences des situations d'apprentissage. Tout en maintenant l'exigence des savoirs, le sur-mesure accessible à tous permet de sortir de la logique de compensation, de remédiation réservée aux élèves éprouvant des difficultés, P4. Ce numéro thématique met en lumière l'évolution vers une approche universelle de l'éducation, les défis persistants, mais également quelques initiatives mises en œuvre pour créer un environnement d'apprentissage plus inclusif au post-secondaire. Il regroupe 12 articles issus de provinces, de pays ou d'auteurs francophones selon deux perspectives, soit institutionnelles ou étudiantes. La première fait un état de la situation actuelle et des défis inhérents à la mise en œuvre de pratiques inclusives ou à visée universelle au post-secondaire. Elle propose aussi des expérimentations ou des exemples de leur application par l'établissement, la communauté enseignante ou professionnelle, PX. En salle de classe, dans les services, dans les politiques, les programmes ou l'accompagnement. La deuxième questionne ce qui se passe en classe, aborde l'expérience étudiante de manière générale ou spécifique et s'intéresse aux besoins ou aux effets attendus ou observés de ces pratiques du point de vue de la communauté apprenante, PX. Perception, facilitateur, obstacle, besoin ou niveau de satisfaction. D'abord, 6 textes s'ancreront dans le milieu de la recherche. 5 s'attarderont au milieu de la pratique et un découle des résultats d'un projet de recherche étudiant, place à la relève. Milieu de la recherche. Dans une optique de trajectoire étudiante, la première rubrique, Milieu de la recherche, débute par le texte d'Isabelle Noël et d'Ariane Paco qui examine les défis de la transition vers la formation postsecondaire à partir de 2 études qualitatives menées auprès de jeunes Suisses ayant des besoins éducatifs particuliers et de leurs parents. Les auteurs analysent les différentes formes d'accessibilité, notamment l'accès aux formations certificatives et le maintien des aménagements nécessaires. Le texte propose des pistes pour accéder à des pratiques plus inclusives dans les programmes. Par la suite, Christiane Bergeron-Leclerc collabore avec 10 collègues pour explorer la façon dont les politiques universelles dans les établissements québécois contribuent au bien-être et à l'inclusion. À partir de 30 documents officiels du réseau de l'Université du Québec, du modèle bioécologique et des concepts de groupe désigné et d'intersectionnalité, le collectif tente de comprendre comment ces mesures ont des répercussions sur les populations étudiantes et employées, en particulier les groupes sous-représentés. Il souligne que ces politiques, bien qu'elles ne touchent pas explicitement les concepts d'équité, de diversité et d'inclusion, participent à créer un environnement universitaire plus équitable et sécuritaire. Pour leur part, Catherine Tardif, Myriam Giroir-Gagné et Julie Lannes proposent une étude de la portée sur les pratiques d'enseignement, d'évaluation et d'encadrement qui favorisent le bien-être et la santé mentale de la communauté étudiante au postsecondaire. L'analyse de 32 documents publiés dans les 10 dernières années a permis de répertorier 55 pratiques à visée universelle classées en cette catégorie, mettant en évidence l'importance des interactions entre les pairs, de l'empathie des personnes enseignantes et des rétroactions claires pour soutenir le bien-être étudiant. Ensuite, le texte d'Audrey Dupont, Suzy Tardif, Marie-Lou Charon, Marco Gaudreau, Gaël Dupuis et Julien Archambault s'intéressent aux représentations sociales du personnel enseignant. Du réseau collégial québécois, plus spécifiquement à ses rôles et responsabilités et son ouverture à ajuster ses pratiques pédagogiques à l'égard des élèves en situation de handicap. Outre la distinction entre les défis vécus par les élèves avec un handicap visible ou invisible au détriment de ces derniers, les résultats indiquent un engagement positif envers l'inclusion, mais aussi des résistances persistantes face à certaines pratiques adaptatives, notamment celles liées à l'évaluation. Pour leur part, Gabrielle Dumouchel, Elisabeth Boily, Anne-Sophie Mailloux, Émilie Desjardins, Elisabeth Jacob et Patrick Giroux documentent l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées dans les classes d'apprentissage actif, CLAAC, au sein d'une université québécoise à l'aide d'observation et d'entretien, 6 enseignantes et enseignants. Cet article met en lumière la manière dont les caractéristiques des CLAAC, telles que l'aménagement flexible, les ressources technologiques et le matériel, facilitent l'emploi de méthodes actives et permettent l'intégration de méthodes plus traditionnelles, soulignant par la même occasion le pragmatisme du corps enseignant ainsi que sa capacité à s'adapter aux objectifs de cours pour favoriser la réussite des étudiants. Ainsi, les CLAAC seraient des environnements propices à l'innovation pédagogique et à une approche plus universelle au postsecondaire. Pour conclure cette rubrique, le texte de Josiane Robert et Alaounsi dévoile les défis rencontrés par les étudiantes et étudiants en situation de handicap au Québec. De manière plus précise, l'article relève des défis majeurs liés à la déclaration du handicap et à la mise en œuvre des mesures d'aide individualisée. CAAC sans grave déaccommodement, un processus souvent chronophage et complexe pour les ESH eux-mêmes, mais également pour le personnel administratif et enseignant. Les auteurs suggèrent l'importance d'une approche plus intégrée, basée sur des pratiques d'accompagnement individuel et universel pour mieux soutenir cette population étudiante ainsi que sur la sensibilisation et la formation de l'ensemble de la communauté universitaire. Milieu de la pratique. La deuxième rubrique, Milieu de la pratique, s'ouvre sur la proposition du service de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. Sandrine Poirier et Mada Lucienne Tandeng retracent les 10 ans d'efforts du service pour promouvoir des pratiques pédagogiques universelles. Outre la description des approches, des valeurs et des phases de cet accompagnement de même que la sensibilisation à la diversité, les auteurs s'intéressent aux bénéfices observés, tels que l'amélioration des pratiques enseignantes et la perception de la diversité, tout en abordant les défis et les perspectives pour une intégration transversale de l'inclusion. La section se poursuit avec un projet de l'Université catholique de Louvain, UC Louvain, en Belgique, dont l'objectif est de promouvoir des pratiques d'enseignement plus inclusives et universelles dans l'enseignement supérieur. Pour ce faire, Émilie Colette, Stéphane Colonisi, Jean-Baptiste Demoulin, Olivier Masson et Marianne Frenet détaillent la mise en œuvre de cette initiative à travers trois cours pilotes, illustrant des stratégies pédagogiques diversifiées et universelles pour répondre à la diversité des étudiantes et des étudiants. Les auteurs soulignent également les enjeux liés à la sensibilisation de la communauté universitaire. Ensuite, Mercé Barrera-Surana, Eda Sanahuja, Audet Moliné et Mélanie Paré proposent une initiative de recherche-action menée à l'Université Jaume en Espagne, visant à améliorer les pratiques d'enseignement universitaire par l'application de la conception universelle de l'apprentissage, CUA, en particulier pour les personnes étudiantes autistes. L'article décrit un projet collaboratif où enseignants, étudiants autistes et personnels de soutien se sont réunis pour évaluer et réviser les méthodes pédagogiques existantes. Les résultats soulignent les forces et faiblesses perçues par le personnel enseignant au regard des principes de la CUA, motivation, représentation, action et expression. De leur côté, Sylvie Cartier et Gabrielle Ross nous présentent leur approche d'innovation pédagogique centrée sur l'apprentissage autorégulé en contexte, dans le cadre d'une troisième version d'un cours asynchrone de l'Université de Montréal. Ces auteurs soulignent l'importance de prendre en compte le bagage et le contexte des apprenantes et des apprenants et discutent des retours positifs des étudiantes et étudiants concernant la flexibilité et l'autonomie, issues de pratiques à visée universelle. Enfin, la rubrique « Milieu de la pratique » se conclut avec Ibrahima Sori Diallo, Aïda Sadae Jazian et Géraldine Elporn qui utilisent trois récits d'étudiantes ou d'étudiants inscrits au cycle supérieur à l'Université Laval pour examiner comment les pratiques pédagogiques universelles, basées sur la CUA, répondent à leurs besoins, notamment face aux défis linguistiques et culturels, et comment se caractérisent les différences dans le degré d'application de ces principes par le personnel enseignant. Le texte met en lumière les avantages perçus de la CUA pour l'adaptation et l'engagement des personnes étudiantes de l'international. Place à la relève. La dernière rubrique, Place à la relève, souligne le travail derrière la thèse professionnelle de Julien Dalpé. Sous la direction de Frantz Landry, ce dernier a exploré les facteurs de succès, les défis et les forces des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs, maîtrise et doctorat, ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bien que des difficultés d'organisation et de gestion du temps persistent, la créativité et la communication orale se révèlent être des forces. À la lumière de ces résultats, certaines pratiques à visée universelle viendraient soutenir les forces ou encore la réussite de cette communauté au cycle supérieur, notamment pour les évaluations et l'accompagnement individuel et collectif. Conclusion. Les articles de ce numéro thématique convergent pour montrer que le postsecondaire francophone doit évoluer vers des pratiques plus universelles, passant d'une logique d'intégration à une d'inclusion. Pour que les établissements parviennent à cette logique d'inclusion, un cadre législatif solide, une volonté évidente ainsi que des politiques et des plans d'action institutionnels clairs sont nécessaires de leur part. De même, une prise de conscience accrue de la diversité étudiante, une forte adhésion de la communauté étudiante et enseignante à une approche plus universelle ou aux principes de la CUA et une formation ou un accompagnement personnalisé du personnel enseignant et administratif seront également essentiels pour permettre un environnement éducatif inclusif, c'est-à-dire qui répond aux besoins de toutes et de tous.